Deuxième jour du procès en appel des responsables de Calédonie Ensemble dans l'affaire des emplois fictifs. Les réquisitions sont attendues dans l'après-midi. Une unité de traitement mobile des carcasses de cerfs de chasse, c'est l'un des projets retenus par l'État dans le cadre de la vague 2 du plan de relance de l'économie calédonienne. Explication dans ce journal. Une année riche et intense. Avant de passer sa couronne samedi soir, Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025, était ce matin dans nos studios. Les incendies en métropole, deux pompiers sont morts lors d'une intervention en Gironde. Ils ont été piégés dans leur véhicule. La France, premier pays européen à fixer une majorité numérique. Au 1er septembre, les mineurs de moins de 15 ans vont devoir se passer des réseaux sociaux. Le texte a été adopté cette nuit. Et puis en sport, le Tour de France cycliste, une deuxième victoire de rang pour Remco Evenepoel. Le Belge s'impose sur le contre-la-montre cette nuit au bord du lac Léman. Pogacar reste en jaune. Bonjour à tous et ouvrons ce journal par le procès en appel de Calédonie Ensemble qui se poursuit. Deuxième journée d'audience ce matin dans l'affaire des recrutements de collaborateurs wallisiens et futuniens entre 2014 et 2018. La Cour a entendu ce matin Philippe Michel, le président de la province sud à l'époque des faits et signataire des arrêtés de recrutement. Une audience que vous avez suivie pour Radio Rythme Bleu, Léana Colombo.
Oui, Jean-François, une audition très juridique pour le bras droit de Philippe Gomez. Philippe Michel a tout d'abord été interrogé sur l'objectif des réunions hebdomadaires avec les collaborateurs wallisiens et futuniens. Des réunions de calage institutionnel et politique, répond Philippe Michel, qui précise qu'il y avait aussi un partage d'informations. Mais alors, quelles étaient réellement les fonctions de ces collaborateurs et surtout, pour qui travaillaient-ils? Les fiches de poste servent plus à définir la rémunération plutôt que de définir les fonctions des collaborateurs. Tout le monde fonctionnait comme ça, se défend Philippe Michel. Celui qui signe les arrêtés est l'autorité hiérarchique, rétorque alors la présidente, qui a ensuite pris l'exemple d'un collaborateur engagé comme secrétaire de direction à mi-temps au Congrès auprès de l'élu Frédéric de Grélan. A-t-il exercé ses fonctions, demande la présidente. Je ne peux pas répondre, mais je pense que non, déplore Philippe Michel. Côté parti civil, on se demande quels travaux ont concrètement été effectués par ses collaborateurs pour la province sud. Il y a une confusion dans ce dossier, selon Philippe Michel. Ces personnes sont payées par la province, mais recrutées par et pour les groupes politiques. C'était une pratique largement utilisée par Calédonie Ensemble afin de pouvoir recruter plus de monde dans les communautés. Une audition de plus de 2 heures pour Philippe Michel, au cours de laquelle ses arguments ont semblé trouver peu d'écho auprès de la cour d'appel. C'est comme parler à un mur. C'est même agacé Philippe Gomez dans la salle. Philippe Gomez qui sera ensuite interrogé par la cour. Les débats devraient se poursuivre jusqu'à demain. Mais attention, la décision ne sera toutefois pas rendue immédiatement. Elle sera mise en délibéré à l'issue des audiences. Et depuis le palais de justice de Nouméa, Léana Colombo, RRB.
Merci Léana Colombo. Un procès donc qui va se poursuivre au moins jusqu'à demain. Signalons que les élus du conseil municipal de Dumbéa se retrouvent ce soir à 17h30 pour le conseil municipal. La majorité municipale présentera à cette occasion le plan de tranquillité de la commune ainsi que sa politique sociale.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Après l'inscription au budget 2027 de la justice, des études préalables sur la construction d'une nouvelle prison en Nouvelle-Calédonie, pensez-vous que le dossier de ce nouvel établissement va aller à son terme? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 96% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'Espagne mérite sa deuxième étoile à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Ils ne sont que 4% à être d'un avis contraire. La province sud adapte son dispositif Sud Relance. L'institution propose désormais un nouvel outil de financement, le prêt d'honneur à taux zéro. Il permet d'accompagner les projets compris entre 2 et 10 millions de francs via un prêt pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs et remboursable en 7 ans maximum. Raphaël Larvor, le directeur de la Direction du développement économique et du tourisme à la province sud.
Ce n'est pas un nouveau dispositif, c'est le complément finalement d'un dispositif qui était calibré pour des moyennes entreprises. Ce que l'on propose là, c'est de s'adresser davantage aux travailleurs indépendants et aux TPE, aux très petites entreprises, donc avec des montants de prêts qui sont inférieurs à ceux que proposait depuis quelque temps maintenant, le prêt Sud Relance. Ce sont des prêts qui sont compris effectivement entre de 1 à 5 millions, là où dans l'ancien dispositif, donc qui continue toujours, hein, mais c'était de 6 à 36 millions. Donc vous voyez, c'est pas la même dimension, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Donc il y avait manifestement une lacune, et donc on la comble. C'est tout simplement pour s'adresser encore davantage aux petits artisans, aux petits entrepreneurs, y compris donc les travailleurs indépendants.
Et c'est en effet un dispositif adapté aux besoins des entreprises, souligne Raphaël Larvor.
On a beaucoup de petites entreprises qui nous interrogent sur nos capacités justement à les accompagner dans la reprise. L'important, c'est de pouvoir être aux côtés, donc que la province sud soit aux côtés des entreprises lorsqu'elles ont vraiment des difficultés. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souhaitent participer pleinement à la relance. Elles ont des difficultés de financement, notamment du fonds de roulement. Et là, on répond présent. C'est-à-dire de l'argent rapidement disponible pour, par exemple, acheter des marchandises pour fabriquer, pour produire. Dans le souhait d'être au plus près des entreprises de la province sud, ceux qui vont s'occuper finalement de l'instruction de ce dispositif, parce que la province sud n'est pas un banquier, ceux qui vont instruire le dispositif, donc prêt d'honneur Sud Relance, c'est le réseau Initiative Nouvelle-Calédonie, qui est un partenaire traditionnel de la province en matière de développement économique.
Et depuis son lancement, le dispositif Sud Relance a financé 224 projets à hauteur de 368 millions de francs. Il est 11h37, une première pause dans ce journal et dans un instant, nous verrons ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
EEC Smart, l'appli qui simplifie la vie. Vous suivez votre consommation en direct. Vous voyez vos factures, les coupures, les conseils, les incidents. Vous pouvez aussi payer en ligne et transmettre vos index solaires. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos. Profitez-en. DCSM réouvre le samedi matin de 8h à 11h.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Revenons un instant sur les projets financés par l'État dans le cadre de la deuxième vague du plan de relance de l'économie calédonienne. Ce sont 10 milliards de francs, je vous le rappelle, qui vont être injectés dans 50 projets au profit du territoire. Et focus ce midi, Mickaël Juneski, sur un projet de la province sud concernant la filière CERF.
Oui, depuis 2023 déjà, le Congrès, les provinces nord et sud ont engagé les démarches pour aller vers une valorisation du CERF de chasse en vue de structurer sa commercialisation. La province sud va donc franchir un pas de plus avec le soutien de l'État. Qui finance à hauteur de 50 millions de francs un projet de mise en place d'une unité mobile de traitement des carcasses de cerfs chassés. Écoutez les précisions de Nicolas Pébaille, directeur du développement durable des territoires à la province sud.
Il faut bien se rappeler le contexte et on est avec un nuisible, le cerf qui détruit la biodiversité de Nouvelle-Calédonie, qui détruit les parcelles et les champs des agriculteurs et des éleveurs, sur lequel on doit arriver à gérer les effectifs, voire diminuer fortement les effectifs. Ça sera aussi une source de protéines vraiment à bas coût, puisque du coup, peu de charges, puisque c'est un animal de chasse, donc avec pas du tout de charges d'élevage. Donc, fort de tous ces éléments, derrière, la problématique venait du traitement des carcasses dans des bonnes conditions, et pour ça, il faut avoir des lieux avec des laboratoires, des ateliers avec un niveau d'hygiène réglementé par la DAVAR, qu'on appelle d'agrément d'hygiène simplifié. La province sud a souhaité présenter ce projet dans le cadre du plan de relance pour amener une unité mobile de traitement de ces carcasses de chasse. On est sur une enveloppe de 50 millions, et donc la moitié de cette enveloppe revient sur les deux unités mobiles de collecte, donc qui sont des camions, forme de camion, et après le reste c'est sur la partie chambre froide et puis l'atelier de traitement. Voilà un petit peu comment ça se répartit. L'idée c'est bien de à la fois traiter un nuisible et aussi valoriser derrière cette viande sur l'aspect commercial et donc avec de la création d'emplois au milieu, et permettre aux Calédoniens d'avoir vraiment accès à cette protéine à bas coût. C'est un projet très intéressant. Avec l'impulsion qu'a mis l'exécutif de la province sud là-dessus, ben, il y a vraiment un grand pas en avant. La concrétisation se fait au travers de cette unité mobile qui est financée donc à 100% par l'État.
Les formations ont déjà été lancées pour les chasseurs afin de préparer cette évolution. Une réglementation a été mise en place, avant tout pour poser les bases de l'encadrement de cette filière cerf de chasse, assurer la traçabilité de la viande, respecter le cadre sanitaire, l'hygiène, le suivi nécessaire afin de garantir la qualité de cette viande à commercialiser. L'intérêt est aujourd'hui multiple à travers ce projet porté par la province Sud avec, à long terme, pour les consommateurs, une viande de qualité, excellente pour la santé et un prix très attractif.
Donc il y aura deux unités mobiles de collecte des carcasses. L'idée, c'est bien d'aller au plus près du terrain, l'endroit où sont les chasseurs, l'endroit donc en brousse, l'endroit où le cerf est chassé, et de pouvoir, une fois que le cerf a été abattu, chassé, donc récupérer pour collecter ces carcasses et qu'elles soient conservées, ces animaux donc là en peau, qu'elles soient conservées dans de bonnes conditions. Et ensuite, ils seront transportés. Donc là, l'idée d'aller au plus près, donc de mutualiser aussi pour voir s'il y a plusieurs chasseurs qui peuvent mener des actions de chasse sur la même période, ou alors des actions de chasse collectives. Donc mutualiser l'outil de collecte et pour ensuite se diriger vers un atelier de traitement pour ensuite donc passer ces carcasses en quartier, donc avec à côté des unités de chambre froide pour toujours garder le respect des conditions sanitaires, notamment au niveau de la température, hein, pour qu'il y ait une carcasse qui soit commercialisable dans les meilleures conditions, pour qu'ensuite elle soit valorisée ou directement par le chasseur lui-même ou par d'autres biais. Tout ça, ça sera à mettre en place un petit peu, et l'objectif, c'est que cette unité mobile qui sera au plus près du terrain, on va la dédier à des gestionnaires, c'est-à-dire qu'on va lancer un appel à manifestation d'intérêt pour voir un petit peu quels sont les acteurs intéressés pour la gestion de cet outil. Donc derrière, ça va générer de l'emploi. L'idée, c'est d'avoir un petit peu toute une chaîne de valeur qui puisse se mettre en place aussi au niveau de la valorisation de cette carcasse pour avoir à la fin une protéine à bas coût disponible pour les Calédoniens, notamment après ce qu'on a subi, après les difficultés économiques qu'on a aujourd'hui. C'est quelque chose qui va venir au très bon moment, à point nommé, comme on peut le dire.
Nicolas Pébaille, directeur du développement durable des territoires à la province Sud. Grâce à la somme apportée par l'État, les travaux vont pouvoir être engagés rapidement, participant également à la relance économique avec des chantiers qui vont voir le jour. Tandis que ce projet d'unité de collecte et de traitement des carcasses de cerfs de chasse devrait se concrétiser dès l'année prochaine.
Elles sont huit candidates qui rêvent de devenir Miss Nouvelle-Calédonie. L'élection aura lieu samedi soir à partir de 20h au Nouméa Resort & Spa. Juliette Collet remettra donc sa couronne après près d'une année de règne. Nous l'avons reçue ce matin. Miss Nouvelle-Calédonie 2025, qui est aussi la première dauphine de Miss France, a fait le bilan de son aventure.
Je suis très heureuse pour les filles. J'ai hâte de vivre ce spectacle. J'ai hâte d'être sur scène parce que j'adore la scène. Et en plus, ce spectacle sera en extérieur, donc j'ai jamais vécu ça, j'ai hâte.
Est-ce que c'est une page qui se tourne ?
Pas forcément, puisque tout va continuer pour moi, hein. J'ai pas forcément de changement, mis à part les représentations. Mais pendant mon règne, j'ai fait trois représentations sur le territoire, donc c'est pas ce qui me prenait le plus de temps finalement.
Vous avez fait un peu moins d'une année de Miss Nouvelle-Calédonie, oui, puisque l'élection est un peu avancée. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours ?
Ce que je retiens, c'est, je vais le dire avec mes mots, mais le sourire et la bienveillance des gens et des Calédoniens, puisque j'ai été soutenue dès le début. Lorsque je suis partie à Miss France, il y a eu un élan d'espoir entre Calédoniens, peu importe l'âge d'ailleurs, peu importe les origines, même la situation géographique. Et ça, j'en suis fière.
Et samedi, Juliette Collet montera sur scène ce qu'elle aime particulièrement et elle proposera un show original pour l'occasion.
J'ai préparé un numéro de cerceau aérien. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, Emma Grousset avait fait un solo de danse, mais elle est très à l'aise, c'est une très bonne danseuse. Moi, en tout cas, je me sentais vraiment pas de faire un solo de danse. Danser avec des filles autour de moi, c'est rassurant, mais toute seule sur scène, impossible. Et donc, à un moment donné, j'ai discuté avec quelqu'un qui faisait du cerceau aérien, Axel Jandot. Et je lui ai dit « Ah, j'aimerais bien essayer !» Et en fait, d'essayer, j'ai fini par me dire « Bon, ben, ce sera ça, mon spectacle. » C'est un défi, un nouveau défi.
Oui, là, il faut oser quand même.
Oui, et surtout, on a eu, je pense, 5 à 7 cours de cerceau seulement. Donc j'ai découvert et préparé un spectacle, donc il faudra être très indulgent avec moi le soir de samedi.
Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025, interrogée par Nicolas Legrand. L'intégralité de cette interview est à retrouver sur notre site internet. Notez que le thème du gala pour l'élection samedi soir sera « Voyage en beauté ». Les votes sont déjà ouverts par SMS au 4012 en envoyant le numéro de votre candidate préférée. de l'animation ce mercredi au Stade Pentecôte à l'occasion des 40 ans de l'EGC Business School Nouvelle-Calédonie. Plus de 350 lycéens de 13 établissements du territoire sont réunis pour la première édition de l'Arena Challenge by EGC, Léo Fichou.
Une journée placée sous le signe du dépassement de soi, de l'esprit d'équipe et du vivre ensemble. Relais, basket, échecs ou encore football, 8 disciplines sportives et intellectuelles sont au programme. Tout ou presque a été pensé et organisé par l'étudiant de l'EGC. Sarah et Marie sont en troisième et dernière année.
C'est un projet de l'école, donc nous on a bossé dessus sur notre dernière année. On a une semaine en présentiel. On s'est chargé surtout des partenariats, donc les partenaires qui sont présents ici pour nous offrir des goodies, des cadeaux, etc. C'était pour faire sous forme d'olympiade, assez ludique pour découvrir l'EGC et faire parler de l'école. Donc il y a eu des sports qui ont été choisis et on a proposé plein d'idées. Et c'est comme ça que la journée va se dérouler. Premier objectif, c'était surtout de rassembler la jeunesse calédonienne sous forme donc de jeux pour que tout le monde profite de la journée. Ouais, surtout la cohésion pour que les lycées se rencontrent et que même les étudiants entre eux puissent s'amuser et faire de la cohésion.
350 lycéens sont donc réunis toute la journée au Stade Pentecôte, des élèves de 13 établissements du territoire, notamment les lycées d'Ikukewe, Blaise Pascal, Escoffier ou encore Jules Garnier et Saint-Jean 23. Objectif affiché par les élèves, passer un bon moment mais surtout gagner.
C'est bien, c'est un bon événement, comme ça on se regroupe autour du sport et puis on peut jouer quoi. Ouais, partager un bon moment et pour ça, pour gagner quoi.
On fait un relais 4x100 et donc c'est répétition 5 fois, genre pour nous amuser et profiter et gagner, voilà.
Alors là, la première épreuve qu'on va faire, c'est le foot à 5. On est content de participer parce que c'est le premier événement qui a été organisé de cette ampleur. Beaucoup de concurrents, donc on est confiant et on va gagner.
Nous sommes très motivés. On va faire du basket. Faire plaisir avec d'autres lycées.
On s'était dit qu'on s'amuserait là entre potes pour le faire, quoi, histoire de venir au tournoi et découvrir. Mais là, pour le jeu, il y en a deux qui nous sont proposés. On va jouer à Overcooked. On profite un peu, on s'amuse, mais après, si on peut gagner, ça fait toujours plaisir.
Une organisation parfaitement rodée, comme l'explique David Leclerc, directeur des écoles de la CCI. Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette fête une belle réussite.
C'est une petite organisation, on est bien accompagné, on a l'UNSS qui est avec nous et ça a permis de bien caler tout ça pour la journée. Une partie des troisième années, ils étaient en relation avec les partenaires et puis aujourd'hui, les premières et les deuxièmes années, tous ensemble, sont là pour servir de bénévoles, accompagner les lycéens, préparer toutes les activités. Juste parfait, le timing parfait pour que tous les lycéens puissent se donner à fond.
L'Arena Challenge by EGC se poursuit jusqu'en milieu d'après-midi. La remise des prix est prévue entre 15h30 et 16h.
Il est 11h et bientôt 48 minutes. Une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve juste après pour parler de l'actualité en métropole.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Bureau Vallée.
Mercredi pédagogique, direction Bureau Vallée, Magenta. Profitez de moins 20% sur les rayons Beaux-Arts, Loisirs Créatifs et Librairie. Peinture, dessin, lecture, activités créatives, partagez de bons moments en famille, sans vous ruiner. Offre valable chaque mercredi pédagogique chez Bureau Vallée, Magenta.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal de l'actualité en métropole avec Jean-François Bodin.
Et les incendies qui sévissent ont fait deux nouvelles victimes. Deux pompiers sont morts cette nuit pour nous alors qu'ils intervenaient sur un feu en Gironde. Un incendie particulièrement virulent à proximité de l'aéroport Bordeaux-Mérignac qui a nécessité l'évacuation de plusieurs résidences et d'usines. Les deux pompiers professionnels ont été piégés dans leur camion, a expliqué Marc Vermeulen. C'est le directeur du service départemental incendie et secours de Gironde.
En phase d'attaque, une unité d'intervention de feu de forêt composée de deux camions citernes feu de forêt du centre de secours de Saint-Médard-en-Jalles a vu l'un de ces camions armé par deux sapeurs-pompiers professionnels piégé pour une raison qu'il appartient désormais à l'enquête de préciser. Nos deux collègues sont décédés.
Et comme c'est le cas, vous l'avez entendu, dans de telles circonstances, une enquête a été ouverte. Dans le Var, près de 1000 pompiers restent mobilisés sur un incendie lui aussi très actif qui a déjà détruit plus de 1700 hectares de végétation. À Marseille, le policier grièvement blessé lors d'un refus d'obtempérer est hors de danger, mais il reste hospitalisé pour un traumatisme crânien. Il y a deux jours, il a été percuté par un véhicule qui tentait de se soustraire à un contrôle routier. Les jeunes à bord du véhicule, âgés de 13 à 18 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le délégué national Alliance Police, Stanislas Godon, souhaite qu'il y ait une prise de conscience de ces faits de plus en plus nombreux pour qu'ils puissent être jugés comme des tentatives de meurtre.
Les refus d'obtempérer qui sont à la base un fléau de notre société, puisque je rappelle qu'il y a 17 refus d'obtempérer aggravés par jour à l'encontre de, notamment de mes collègues sur le terrain. Vous avez aussi cette problématique des mineurs, de ceux qui circulent sans permis de conduire, parce que c'était le cas notamment de ce conducteur. Donc j'ai envie de dire qu'effectivement, tous les ingrédients sont là pour illustrer en fait ce qui se passe depuis des mois, voire des années, et que nous dénonçons. Et c'est bien pour ça que j'espère que la main de la justice ne va pas trembler. Parce qu'aujourd'hui, ce conducteur est passible des assises. J'espère qu'on ne va pas passer en matière délictuelle et que, encore une fois, on va être dans la culture de l'excuse, de la minoration de ce qui se fait dans la société à l'encontre de mes collègues sur le terrain. Donc je crois que ce serait un très très mauvais message.
Stanislas Godon, délégué national Alliance Police. Et puis le maire d'Alès, sous protection de la police. Il y a quelques jours, Christophe Rivinck a reçu des menaces de mort de la part des narcotrafiquants de la DZNG, une branche dissidente et rivale de la DZ Mafia. Dans la crainte d'une action violente à son encontre, il a été exfiltré de son domicile par le RAID et placé en sécurité sous protection rapprochée. Pas question de baisser la garde dans la lutte contre le narcotrafic à Alès, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nouniez.
Alès est un lieu où manifestement la DZ Mafia tente de s'implanter, où les actions notamment de la police judiciaire du Gard, que je veux saluer, réalisent des affaires extraordinaires. En décembre, ce sont 4 personnes qui ont été écrouées, 4 trafiquants, puis en mars, 7 personnes qui ont été interpellées et écrouées. Évidemment, on va continuer cette action avec beaucoup de détermination.
Le dossier est entre les mains du nouveau parquet national anti-crime organisé. Grosse activité à l'Assemblée nationale la nuit dernière pour nous. Les députés ont d'abord adopté la loi Urgence agricole, un texte qui a suscité beaucoup de débats, notamment parce qu'il ouvre la porte à l'utilisation de pesticides jusque-là interdits en France, mais pas dans les autres pays européens. À l'issue du vote, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a annoncé son intention de démissionner de son poste. Adopté également la loi sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. La France est ainsi le premier pays européen à fixer une majorité numérique, pas de TikTok, Instagram et autres X avant cet âge. Les réactions sont partagées chez les jeunes concernés, bien sûr, mais aussi chez leurs parents.
Ça va les déconnecter un peu. J'avais essayé de regarder, mais ça regarde déjà, parce que j'ai le contrôle parental, tout comme ça. Mais eux, est-ce qu'ils vont tenir? C'est ça le problème.
Ils m'ont dit que peut-être, genre, on va limiter le temps sur les applications et que, genre, j'aurai que le droit sur leur téléphone de parler à mes copines.
Ça me désole. Faut pas enlever le plaisir des jeunes. Il faut pas non plus supprimer tout ce qui va avec notre nouvelle génération. Après, je pense que maintenant qu'il y aura plus forcément les réseaux, ça va peut-être amener après un nouvel équilibre sur l'utilisation des réseaux par certaines personnes. Ils vont trouver moins utile de passer ce temps-là qui passait avant.
Et cette loi devrait entrer en vigueur au 1er septembre prochain. Les députés ont également adopté une loi sur la protection des enfants. Elle avait été introduite après l'affaire Liana et sa principale disposition est d'instaurer une peine de prison à perpétuité pour les auteurs de viols en série sur mineurs. La gauche était opposée à ce texte et il a fallu que la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination, Aurore Berger, mette son poids dans la balance.
Je crois que nous avons besoin collectivement de ressaisissement sur ce sujet. Nous avons besoin collectivement de démontrer que sur la protection de nos enfants, il n'est pas affaire de politique, ni de victoire ou de défaite.
Les députés avaient rejeté le texte une première fois et il a fallu que le gouvernement introduise une nouvelle délibération pour le faire adopter. Et puis ce sera l'un des événements de la fin du mois de septembre, la visite en France du pape Léon XIV. Le souverain pontife va passer 4 jours en métropole du 25 au 28 septembre. Voyage en pleine préparation mais dont on connaît désormais le programme. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Dès son arrivée, le pape se rendra à l'Élysée. Léon XIV va prononcer un premier discours qui donnera le ton de son 5e voyage à l'étranger depuis son élection sur le siège de Saint-Pierre. Alors que la loi sur la fin de vie a été adoptée, le Saint-Père devrait rappeler son opposition à l'euthanasie. Après un déjeuner à l'ambassade du Vatican, le pape est attendu à l'UNESCO. Pour des raisons de sécurité, la déambulation en papa mobile dans les rues de Paris devrait être assez courte. Le Saint-Père va découvrir ensuite la cathédrale Notre-Dame rénovée. Il présidera les vêpres et devrait également vénérer la couronne d'épines. Une grande soirée avec les jeunes est prévue au Stade de France. Le samedi 26 septembre, le point d'orgue sera la messe place de la Concorde. 400 000 personnes sont attendues. Le lendemain, le souverain pontife va vivre plusieurs temps forts à Lourdes, prière à la grotte, procession flambeau, discours devant les évêques de France, mais surtout une rencontre est prévue avec des victimes d'abus sexuels. Enfin, la dernière étape de son voyage à Metz sera l'occasion de parler de paix et d'honorer la figure de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe.
Un mot de l'actualité à l'étranger. Au Moyen-Orient, les hostilités se poursuivent entre les USA et l'Iran. L'armée américaine a mené de nouvelles frappes alors que Téhéran a riposté en visant les pays du Golfe. Les États-Unis n'en ont pas fini du tout avec l'Iran, a déclaré Donald Trump. Au Yémen, les Houthis, soutiens du régime de Téhéran, menacent désormais de bloquer la navigation en mer Rouge. Si c'est le cas, on s'en occupera, a réagi le président américain. 11h55, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive et notamment le Tour de France. Nouvelle victoire du Belge Remco Evenepoel cette nuit pour nous.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus, envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 7 août à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Jean-François Baudin.
Oui, voilà, toujours là pour vous présenter le journal. Et on va parler dans cette page de sport, Pierre, de cyclisme avec la suite du Tour de France. C'était cette nuit la 16e étape. Elle s'est courue entre Évian et Thonon.
Suivez le Tour de France avec Mazda. Besoin d'une nouvelle voiture ? Avec Mazda, trouvez la voiture adaptée à vos besoins. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda. Passez nous voir au showroom Mazda situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Cette 16e étape, c'était un contre-la-montre individuel de 26 km 100, Lionel Sabot, et nouvelle victoire du Belge Remco Evenepoel.
Oui, deuxième succès de suite pour le Belge de la formation Red Bull Bora, vainqueur lundi au sommet du plateau de Solaison. Le champion du monde du contre-la-montre s'est imposé presque sans surprise entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. En ce jour de fête nationale belge, Evenepoel a devancé de 28 secondes Tadej Pogacar et d'une minute 04 le Danois Mathias Skelmoge. Écoutez Remco Evenepoel.
C'est incroyable. C'était un très beau chrono avec énormément de monde sur le bord de la route. Toute ma famille était là. Mes parents sont venus juste aujourd'hui. Ma femme est là avec ses parents aussi. Le jour de la fête nationale de Belgique, forcément c'est spécial. Et j'ai appris ce matin que ça faisait longtemps qu'un Belge n'avait pas gagné ce jour-là, donc je suis très fier d'être celui-ci, de faire partie de ceux-là. J'ai juste appris que Lipovic, mon coéquipier, était tombé. C'est vraiment très triste. Je lui souhaite évidemment le meilleur. J'espère que ça va. C'est juste incroyable de gagner deux victoires consécutives, c'est fou.
Remco Evenepoel au micro de nos confrères d'Eurosport. Un mot aussi du français Paul Sexes qui a parfaitement bien géré ce chrono individuel en prenant la quatrième place à 1 minute 16 du vainqueur. Au classement général, pas de changement. Le Slovène Tadej Pogacar garde son maillot jaune de leader avec 4 minutes et 32 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 6 minutes 51 sur le Mexicain Del Toro. Paul Sexes conserve sa quatrième place à 7-11 du leader. À suivre demain la 17e étape, 174 km de plat entre Chambéry et Voiron. Ce sera la dernière étape de plat avant d'attaquer les très grosses difficultés des Alpes et notamment deux arrivées à l'Alpe d'Huez.
On suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention. On va parler golf, Lionel, maintenant pour prendre des nouvelles des deux jeunes calédoniens qui participent depuis le début de la semaine au championnat de France des jeunes.
Et tout se passe bien pour Tiphaine Dagorin-Leca du golf de la Wengi et Martin Rouveron Pérols du golfe de Tinal. Les deux jeunes Calédoniens sont qualifiés la nuit dernière pour la phase de match play de ces championnats de France. Tiphaine Dagorin-Leca a passé le cut après avoir rendu des cartes de 87 et 81 qui lui permettent donc de poursuivre son chemin. Martin Rouvérol a lui rendu des cartes de 80 et de 76 sur les deux premiers tours. La nuit prochaine, chez les dames, Tiphaine Dagorin-Leca disputera son match face à Alix Germain du golfe de Guérande. Quant à Martin Rouvérol, il affrontera lui Jack Smith du golfe de Saint-Malo.
Voilà, il est midi, c'est la fin de ce journal. Infomac se poursuit évidemment jusqu'à 13h avec Pierre que vous allez retrouver dans un instant. Je vous souhaite une belle après-midi.